à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce vendredi 15 mars. Après des années de revendications et de négociations, le dossier de l'assise territoriale de la Première Nation de Long Point à Wanaway est loin d'être réglé. De passage dans la région en novembre dernier, le ministre québécois des Relations avec les Premières Nations, Yann Lafrenière, avait déclaré qu'il voulait régler rapidement le dossier de l'assise territoriale. C'était d'ailleurs une condition pour la mise en place d'une desserte policière. Le ministre Lafrenière fait le point sur la situation.
Ce dossier qui est important pour nous. On sait que c'est une des rares communautés qui n'a pas de territoire de réserve. Et ce que ça causait comme préjudice, autant pour les membres de la communauté, c'est de ne pas avoir accès à certains financements du fédéral. Alors, on a enclenché un processus de négociation qui a été accéléré depuis 2021. J'ai même nommé récemment, juste avant la période des fêtes, un facilitateur, mon collègue Jeff Kelly, qui s'est ajouté à cette négociation-là pour s'assurer qu'on puisse livrer quelque chose, parce qu'il y avait deux choses en même temps. Il y avait les demandes de la communauté d'avoir une desserte policière qui était adaptée. Je l'ai fait, on a tenu notre engagement. On a commencé à faire des patrouilles, comme vous savez, avec Témiscamingue First Nation, Kébawek, la Sûreté du Québec sur le territoire de Wanaway, dans le but de préparer le terrain pour avoir une police régionale. Et on avait dit du même coup, on doit régler l'assise territoriale, ne serait-ce que pour des raisons de juridiction pour le service de police qui sont en place, mais aussi pour la bonne cohabitation avec les voisins, dont la municipalité de la Force que j'ai visitée l'an passé. Je comprends très bien les enjeux qu'ils ont. C'est pour ça qu'on a voulu s'assurer d'avancer plus vite.
Pour le maire de La Force, M. Gérald Charon, le fait de ne pas avoir de limite claire entre les deux communautés crée des problèmes.
Présentement, Wanaway est considéré dans La Force, puis nous, à La Force, on aimerait bien que Wanaway ait son propre territoire défini. Les résidents de Wanaway qui ne payent pas de taxes des établissements à La Force. Il n'y a pas de permis de construction qui est demandé, il n'y a pas de... Ils ont fait plusieurs rues, on n'est pas consulté en aucun temps.
Par souci de transparence, la communauté de Long Point a initié cette semaine une rencontre avec la municipalité de La Force pour les tenir au courant du processus de négociation et de leurs attentes face au gouvernement. De son côté, le ministre Lafrenière réitère qu'il faut régler le dossier de l'assise territoriale rapidement.
Force de constater qu'on n'a pas pu le régler encore. J'ai écrit cette semaine au chef de Wanaway, lui disant qu'on doit absolument régler ça. Pour moi, ça met en péril ce qu'on a fait comme avancée, c'est-à-dire le côté de la desserte policière, parce qu'on a tenu notre engagement, on s'attend de l'autre côté qu'on avance avec la communauté de Wanaway.
La lettre envoyée au chef Henry Rogers l'informe que le gouvernement suspend les négociations portant sur la sécurité publique tant qu'il n'y aura pas d'entente conclue pour l'assise territoriale. Le chef de la Première Nation de Long Point a déclaré par voie de communiqué que son conseil et lui-même se trouvent déconcertés par des messages contradictoires. D'un côté, leur équipe de négociation brosse un tableau encourageant des négociations et de l'autre, ils reçoivent une lettre du gouvernement qu'ils jugent paternaliste. Le chef Rogers a déclaré « Je m'étonne qu'en 2024, on nous traite encore comme des enfants et qu'on nous menace de sanctions. J'implore le niveau exécutif du gouvernement de se rendre sur le terrain, ici dans la région, pour collaborer étroitement à la réorientation. Je les invite à tenir une assemblée générale dans notre communauté ainsi qu'une réunion générale de type forum dans la région qui réunirait à la fois les dirigeants régionaux et Long Point. » La marraine des enfants de la DPJ, Nancy Odette, dénonce la vétusté des centres jeunesse autant en Abitibi-Témiscamingue qu'ailleurs au Québec. La journaliste et conférencière de Saint-Dominique-du-Rosaire estime que 20% des installations sont en mauvais ou en très mauvais état.
C'est-à-dire qu'il y a des infiltrations d'eau, par exemple, il y a de la moisissure, des champignons, il y a des chambres qui sont très petites. Très, très petite. Il y a pas de fenêtre. Il y a des bains condamnés, des douches très sales qui fonctionnent à moitié. Donc, c'est inquiétant que ces enfants vivent dans des conditions comme ça.
Elle rappelle qu'il y a eu un problème à Rouyn-Noranda où de nombreux enfants ont dû dormir sur des matelas installés sur les planchers durant plus d'un an. Elle demande au gouvernement du Québec d'investir les sommes nécessaires pour la remise à niveau des lieux d'hébergement et profiter de l'occasion pour revoir certaines pratiques.
Beaucoup, beaucoup de répression pour les enfants, pour les jeunes. On parle de contention, on parle de mesures d'isolement, on parle de fouilles à nu. Donc, il faut s'interroger sur ce qu'on fait vivre à ces enfants-là, à l'intérieur même du système, des enfants qui ont subi pour la plupart des traumatismes, des enfants qui ont besoin de soins, d'accompagnement.
Nancy Odette, elle-même, une enfant de la DPJ, rappelle que cette situation toxique n'est pas étrangère à la hausse du nombre de fugues dans les centres jeunesse.
La région en Abitibi-Témiscamingue est touchée par cette explosion-là. Posons-nous des questions. Moi, je les comprends, les jeunes. Ceci étant dit, je les comprends d'avoir besoin d'air, d'avoir besoin de sortir de ce carcan. Ils sont étouffés. Ils font face à de la répression quotidienne. Ils sont en souffrance. Ils sont en douleur. Mais par contre, quand tu vois une explosion de fugue comme ça, faut pas penser que ces jeunes sont en sécurité à la rue.
Le budget provincial a été déposé mardi dernier et la directrice générale du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Maude Guy, présente la vision de l'organisme à l'endroit de ce dernier.
Mais c'est mitigé. C'est aussi un peu difficile de déterminer ce que ça va avoir comme impact pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que pour le moment, les chiffres qu'on reçoit sont globaux. Tu sais, c'est pour l'ensemble de la province. Fait qu'on va voir plus en avril comment ça va descendre dans les programmes puis ça va être quoi nos enveloppes pour la région. Mais il y a des choses qu'on peut constater. Il y avait, après la COVID, un plan de relance pour le milieu culturel et il avait été demandé de maintenir ces sommes-là pour continuer à soutenir le milieu qui vit encore beaucoup de difficultés. Puis ça, ça a été retiré. L'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, l'explosion des coûts, c'est toutes sortes de défis auxquels le milieu culturel est confronté en ce moment. Puis on n'aura plus ces mesures d'aide spéciales là, pour venir appuyer le milieu.
Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue a quelques souhaits à l'endroit du gouvernement.
De maintenir les enveloppes qui avaient été prévues pour l'aide à la COVID, que ce soit en diffusion ou pour la musique, on fait face à des nouveaux défis avec les géants du web, le numérique, la découvrabilité. Donc ça, on voudrait maintenir ces enveloppes-là. C'est sûr aussi que dans nos programmes plus réguliers, il y a des craintes, des inquiétudes face au maintien des enveloppes et même à l'augmentation pour faire face à l'inflation. Je vous donne un exemple avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Les organismes, les lieux de diffusion étaient en demande pour l'aide à la mission déposée au 1er février, mais ils ne savent toujours pas combien ils vont recevoir, puis plusieurs d'entre eux souhaitaient des augmentations. Mais là, avec les diminutions qu'on vient de voir au calque, est-ce que ça va se traduire par une diminution de leur aide à la mission? C'est ça, c'est toutes sortes de sources d'inquiétude, le temps qu'on ne saura pas comment tout ça va retomber chez nous sur notre territoire.
Madame Guy revient sur l'abandon du projet des espaces bleus, dont un était prévu à Amos.
Juste là, on en voit, avec l'annonce la semaine passée, un impact là, de cette coupure-là pour le milieu culturel en Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, il va y avoir un montant qui va être conservé pour restaurer le bâtiment, mais ce ne sera pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu parce que là, on prévoyait un agrandissement. Ça, ce ne sera pas maintenu. Puis ensuite de ça, il n'y aura pas l'argent pour les opérations, là, tu sais, pour opérer le bâtiment année après année. Fait que ça va revenir à qui? Puis l'enjeu de ça aussi, c'est que avant il y avait des organismes culturels qui occupaient le Vieux Palais. Et là, ils ont dû se relocaliser. Puis il n'y a rien qui garantit que dans un futur prochain, le Vieux Palais va demeurer avec une vocation culturelle. Il va y avoir une concertation régionale, mais le gouvernement va vouloir le revendre, cet édifice-là. Il ne voudra pas le maintenir dans son actif. Il va falloir garder un œil ouvert. Ça, c'est une perte pour la région. Puis l'argent qui ne sera plus là pour les opérations du bâtiment, il ne s'en retourne pas nécessairement dans le réseau des institutions muséales. En ce sens-là, c'est une perte.
Et alors que la saison de la pêche blanche tire à sa fin, le ministère des Ressources naturelles et des forêts rappelle à la population que l'ensemble des activités pratiquées et des installations temporaires présentes sur les plans d'eau et les terres du domaine de l'État doivent respecter la réglementation en vigueur. Lors du dégel, on dénombre sur le territoire public de nombreuses cabanes de pêche entreposées illégalement ou même laissées à l'abandon. En plus d'être interdites, cette façon de faire peut aussi être dommageable pour l'environnement et compromettre la sécurité des utilisateurs et utilisatrices ainsi que l'accès au lac. L'installation de cabanes de pêche blanche peut être autorisée en hiver, mais ces abris doivent être temporaires et obligatoirement retirés des lieux par leurs propriétaires avant la fonte des glaces. Il est aussi interdit d'entreposer ces cabanes sur les terres publiques pendant l'entre-saison. Une personne qui laisse sa cabane à proximité d'un lac pendant plusieurs mois est donc passible d'éviction et s'expose à des procédures judiciaires. Pour consulter la réglementation ou en savoir davantage sur l'utilisation des terres du domaine de l'État, visitez la page « Activités permises sur le domaine public » sur le site du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Ça complète votre bulletin d'information régional. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.